Nous sommes le 4 juin 2025 à Abu Dhabi. Julianne y réside depuis 4 ans avec son mari Kim et ses 3 filles, Zoé, 4 ans, Clémentine, 2 ans et demi, et Lou, bientôt 10 mois. Avant de s'installer aux Émirats Arabes Unis, Kim et elle ont vécu en Australie, où ils ont eu le bonheur de commencer leur grande famille, puisque Zoé y est née au milieu des belles Blue Mountains. Puis Clémentine et Lou, qui ont vu le jour à Abu Dhabi. 3 filles, dont chaque naissance a été extraordinaire, toutes différentes, et que Julianne et Kim ont voulu inscrire dans l'éternité, afin de se remémorer à quel point elles ont été attendues et aimées, une évidence dans la vie de leurs parents. Julianne va ici raconter en détail la naissance de Lou, qu'elle n'avait pas encore documentée. Puis, elle se souviendra de celle de Zoé et de Clémentine avec émotion et surtout, une grande fierté. Enfin, elle leur laissera un message plein d'amour et d'optimisme. Découvrons maintenant le récit de l'arrivée au monde de Lou et de ses sœurs.
Donc aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir raconter un petit peu à Lou ce qui s'est passé, comment elle est arrivée ici, à quel point elle a été désirée, et aussi pour ses sœurs, pour qu'elles puissent se rappeler aussi de la voix de leur maman et qu'elles sachent un petit peu de leur histoire. Je suis très attachée aux souvenirs, je suis très matérialiste, j'ai du mal à jeter les choses, je garde beaucoup des tickets de métro ou des brochures de musées, parce que je fais du scrapbooking, j'adore ça. J'adore la photo, j'adore les souvenirs, j'adore écrire dans les journaux. J'ai des journaux de naissance pour les 3, pour leur première année. J'ai des journaux intimes, j'ai des agendas, j'écris beaucoup et j'adore pouvoir me rappeler me replonger dans le passé pour voir ce qui s'est passé. Et moi, mon grand-père maternel racontait des histoires, on a plein de cassettes. De lui qui raconte des histoires. On a, nous, nos vidéos quand on était petit avec les vieux caméscopes et les cassettes où on a des images de nous quand on était petit et je sais à quel point c'est incroyable de pouvoir entendre la voix de nos familles, les membres de notre famille qui ne sont plus là, comme mon papa, par exemple, de pouvoir entendre sa voix et de le voir bouger, c'est incroyable. Et heureusement, aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, on peut avoir l'opportunité de garder ça et c'est juste incroyable. Donc j'ai envie d'offrir ça, de me l'offrir à moi et de l'offrir à ma famille. Alors, nous avons toujours voulu avoir plusieurs enfants. Je suis fille unique. Je n'ai jamais voulu spécialement avoir de frères et sœurs parce que j'ai grandi très proche de mes cousines. On a le même âge. Ma mère et ma tante sont très proches et on a grandi tous ensemble. Mon mari a 3 frères et sœurs. Ils sont 4. Les 2 premiers sont adoptés, ils viennent de Corée du Sud. Kim est un enfant biologique et leur 4e, Max, vient de Centrafrique. Il a été aussi adopté. Donc, c'est une famille complètement différente de la mienne. Et quand on s'est rencontrés, je ne me rappelle pas exactement comment on a commencé à aborder le sujet des enfants. Je lui avais dit que moi, je n'étais pas prête tout de suite. Et puis, à un moment, c'était inné pour nous de se dire qu'on allait avoir des enfants. Après combien ? 1, c'était non. 2, oui, plus peut-être. Et je pense que je devrais lui redemander, mais on s'était dit à un moment donné, on aimerait bien en avoir 4, on aimerait bien en avoir 2 d'un coup, et puis 2 plus tard. C'était notre plan. Mais là, aujourd'hui, on est arrivé à 3, on est très contents, on pense que c'est un bel équilibre. Je pense qu'on aimerait tous les deux en avoir un 4e, mais on sait que logistiquement, financièrement, ce serait peut-être pas la meilleure des idées. Mais avoir un 4e bébé, on serait pas contre. Parce qu'on adore être parents, on adore nos enfants, c'est génial, on apprend plein de choses. Zoé, nous avons attendu Zoé pendant 6 mois, et elle est arrivée à la fin de Covid, quand on était en Australie. Une grossesse absolument incroyable, dans les Blue Mountains en Australie. Je ne travaillais plus à ce moment-là, parce que j'avais perdu mon travail. Et on était dans un cadre absolument magnifique, où je faisais de la randonnée tout le temps. Je fais énormément de recherches, je faisais du yoga tous les jours. C'était une grossesse très chill, très agréable. Ensuite, Clémentine, elle est arrivée 1 an et demi plus tard, donc elle était très proche. C'est ce qu'on voulait, on voulait des enfants proches. Et puis on s'était dit, pour la 3e, on voulait attendre un petit peu. Et puis ça a été intense, l'arrivée de Clémentine, d'avoir 2 enfants en dessous de 2 ans, c'est intense. Du coup, on s'était dit qu'on allait attendre un petit peu. Et puis moi, je savais aussi que Kim voulait un 3e assez rapidement. Sauf qu'à un moment donné, je lui ai dit, l'été avant la grossesse de Lou, j'ai dit à Hakim, j'ai dit, écoute, je pense que je voudrais qu'on attende un petit peu parce que ça fera trop. Je pense que je serai pas capable et j'ai besoin d'un break. Et on s'était mis d'accord là-dessus. Et puis en décembre, on a appris qu'on allait avoir un bébé. Et puis, bah, c'était là. Moi, j'étais très contente. Kim aussi, même un peu choquée au début parce qu'il pensait que ça arriverait plus tard. Ça aurait été bien, peut-être 6 mois plus tard. Mais moi, j'étais très contente que ça arrive maintenant parce qu'au final, j'étais prête. Je pensais que je le serais pas. Et en fait, 6 mois de plus, c'était très bien. Donc, le timing était parfait.
Quand tu as appris que tu étais enceinte, c'est quoi votre réaction initiale?
On était en vacances au ski avec les parents de Kim et ma maman. Zoé faisait du ski pour la première fois. Moi, je refaisais du ski depuis longtemps. Donc, avec Kim et son père, on skiait. Sauf que j'étais fatiguée. Et il y avait ce café que je ne pouvais plus sentir. Et je me suis dit, il y a un truc bizarre. Et à un moment donné, donc je faisais plein de sport. Hein, et à un moment donné, j'ai dit à Kim, j'ai dit, écoute, je suis tellement fatiguée. J'ai dit, franchement, si j'avais pas eu mes règles il y a 3 semaines, je pense que je serais enceinte. Et il m'a regardé, il m'a dit, t'es sûre? Je dis, bah écoute, c'est pas possible. On était en week-end début décembre. Tu te rappelles très bien que je m'attendais pas et que voilà, j'ai eu mes règles. C'était bizarre. C'était des règles bizarres. Et puis, il m'a dit, écoute, on va faire un test. Je dis, non, mais pas du tout, c'est pas possible. Puis j'ai repensé, ou à la fois on est allé camper, ou potentiellement nous auriez pu avoir un bébé. Et je me suis dit, c'était quand même pile le bon moment. Bon. Kim, et du coup, moi, je suis partie ce matin-là faire un saut en parapente avec ma mère et ma belle-mère. On a fait ce superbe saut en parapente et l'après-midi, j'avais un massage de prévu parce qu'en fait, c'était mon anniversaire quelques jours avant et c'était les cadeaux que j'avais eu pour mon anniversaire. Entre deux, Kim était allée le matin à la station de ski au village avec son père pour aller à la pharmacie pour chercher un test de grossesse. Son père qui voulait absolument rester avec lui à la pharmacie et Kim qui essayait de se dépatouiller de son papa en lui disant « Mais non, mais va acheter ça, je peux m'en... Non, mais t'inquiète, je vais t'aider. Non, ça va aller. » Genre, il voulait pas montrer qu'il a acheté un test de grossesse. Il a réussi à acheter son test de grossesse. Il est revenu entre, du coup, mon parapente et le massage en me disant « Tiens, voilà le test, comme ça, on saura. » Je dis « Ok, bon, c'est pas la peine, mais ok. »
Lui, il avait envie que ça soit positif, qu'il était dans l'état d'esprit.
Il se demandait. Il n'était pas en stress, non, c'était normal. C'est genre, on va quand même vérifier parce que t'es vraiment fatigué. On buvait du vin, on mangeait de la charcuterie et tout ça. Et on faisait du ski et du parapente. C'était super! On était allé dans un parc d'attractions 2 semaines avant et j'avais fait le fastest roller coaster. Bref, j'ai fait ce test qui s'est avéré positif et j'ai fait oh! Ah! Et j'étais très contente. J'étais ravie. Et puis, je suis partie faire mon massage. Et la première question que la masseuse m'a posée, c'était « On va utiliser des huiles essentielles. Vous n'êtes pas enceinte ?»« Non. » Je ne lui ai pas dit parce que moi, je voulais faire mon massage. Lou a tout eu avant sa naissance. C'est peut-être pour ça qu'elle est aussi calme maintenant. Je ne sais pas. Et puis, du coup, j'ai rien dit à Kim ce soir-là. Il a oublié, en fait. Moi, j'étais partie faire mon massage. Il était parti skier. Et puis, on a enchaîné la journée, la soirée. Et puis le lendemain, on est parti sur les pistes. Et dans le télésiège, il m'a dit, on était tous les deux, et il m'a dit, je me rappelle encore du paysage, on montait, on allait skier du coup. Et il m'a dit, mais au fait, t'as fait le test? Ce à quoi j'ai répondu, je pense que je vais pas pouvoir faire de kitesurf pendant les vacances du mois d'avril. Et il m'a dit, oh, arrête! Et j'ai dit, ouais. Et puis nous sommes arrivés sur les pistes, et Kim a eu besoin d'un petit moment seul pour digérer l'information. Moi, je souriais, il est parti devant moi, et puis, on a fait notre descente. Et puis après, voilà, ça s'est fait. Et je sais ce qu'il a ressenti. Il s'est dit, swallow it, Kim. She's here. I mean, the baby is coming. Donc, ça va le faire. On va y arriver. On voulait plus tard. C'est un peu un choc. On l'a déjà fait, on va le faire. Ça va aller. Il s'est coaché tout seul en se disant, il a eu du temps à digérer l'information. Et puis voilà.
Donc, la première réaction de Kim, ça a été un peu l'appréhension, quand même.
L'appréhension en se disant, ah, on avait dit plus tard, il va falloir qu'on recommence là maintenant. Oh, c'est dur. Mais aussi, il s'est dit, c'est ce qu'on voulait d'avoir des enfants proches les uns des autres. Eh ben, on sait très bien que c'est une période à passer, qu'après, ça va être génial et que ça sera peut-être génial, ça va peut-être être dur, mais on sera ensemble et on y arrivera.
Est-ce que d'avoir vu ta réaction à toi, qui était tout de suite enthousiaste et contente, est-ce que ça l'a rassuré?
Oui, il était très rassuré de voir ma réaction aussi parce qu'il savait que j'étais contente. On l'a annoncé à table d'ailleurs à nos parents et à ma mère parce qu'on savait qu'on les reverrait pas avant l'été. C'était l'occasion de leur dire en face que on allait avoir un troisième. Donc on l'a dit à table à tout le monde alors que j'étais enceinte de du coup 6, on savait pas exactement mais on s'était dit à peu près 6-7-8 semaines quoi au final. Ils étaient contents mais en mode encore. Encore. Vous allez vous arrêter ou pas? Mais ils étaient contents aussi. Alors, le reste de la grossesse s'est très bien passé. Encore une fois, Zoé et Clémentine sont petites, sont toujours petites, étaient petites. Et du coup, on va dire que la troisième grossesse n'était pas autant... J'étais pas autant concentrée sur mon corps et sur le bébé que j'ai pu l'être avec la première. Zoé, j'ai vraiment été... Mais ça, c'est normal aussi. On peut pas être autant connectée avec un premier bébé qu'avec les autres. Zoé, on a passé énormément de temps, toutes les deux au final, à faire beaucoup de choses pour préparer la naissance, à découvrir le monde de la maternité, ce que c'est qu'un bébé. Après, on savait tout ça. Donc, on a fait beaucoup moins de recherches. J'ai passé beaucoup moins de temps à faire du yoga ou à me connecter avec bébé. Pour Clémentine, ça a été aussi un peu moins parce que j'étais enceinte quand... j'étais enceinte entre les 9 mois et les 18 mois de Zoé. Donc, Zoé était encore un bébé. Donc, j'étais connectée à Clémentine au final, mais aussi parce que Zoé tétait encore. Donc, on avait vraiment cette connexion toutes les trois qui était très, très forte. Et j'ai allaité Clémentine et j'ai allaité Zoé en même temps pendant encore 2 ans après. Donc elles ont fait 2 ans de tandem feeding et c'était incroyable. Du coup, on avait vraiment cette connexion toutes les trois qui était très très forte. Pour Lou, c'était différent parce que Lou, j'avais aussi mon travail où je travaillais beaucoup et j'étais en train de lancer mon projet et que je travaillais beaucoup. Clémentine était plus intense que Zoé n'avait pu l'être. Il y avait l'école, il y avait beaucoup de choses. Et du coup, je me suis beaucoup moins connectée à Lou pendant la grossesse que je n'ai pu le faire pour les deux autres. Kim aussi passait beaucoup moins de temps à parler au bébé qu'il aurait pu le faire pour la première. C'était une belle grossesse que j'ai adorée. J'adore être enceinte. J'adore ça. Je prends un vrai plaisir à aller nager, faire des mouvements. Que les filles connectent avec bébé. On a beaucoup connecté avec bébé.
Tu te sens comment quand t'es enceinte?
Enfin, je me sens bien quand je suis enceinte. J'adore être enceinte. Je me sens glowing, comme on dit en anglais. J'aime mon corps quand je suis enceinte. On a fait plein de photos, plein de vidéos. On a fait plein de moments avec les filles aussi. C'était très, très, très chouette. Après un moment en one-on-one avec mon bébé, beaucoup moins que je ne l'avais pu le faire. Je n'ai pas fait de préparation vraiment à l'accouchement parce que j'avais déjà fait. Donc on a fait beaucoup moins de connexion avec bébé, mais c'était connexion en famille au final. Donc c'était chouette. C'était différent et c'était beaucoup plus fatigant aussi parce que j'avais 2 petites à gérer et étais enceinte. La fin de grossesse, c'était vraiment très intense. Alors, la fin de la grossesse était très, très chouette parce que c'était en France, mais aussi très intense et fatigant parce que les filles voulaient tout le temps être portées. Et ça, porter 2 enfants quand t'es enceinte de 35 semaines, c'est vraiment dur physiquement. Et puis, tu dors beaucoup moins bien en fin de grossesse. Donc, effectivement, une fin de grossesse, quand t'as pas d'autres enfants autour, c'est beaucoup plus facile que quand tu as 2 autres toddlers à t'occuper. Et du coup, la fin de grossesse était très, très chouette parce que on est revenu à Abu Dhabi pour les 5 dernières semaines. Les filles étaient au centre aéré, du coup au summer camp. Ma mère est venue début août. On avait prévu ça. Il y avait notre nanny, Imaya, qui était là aussi. Et on avait une super organisation, on faisait plein de choses. Kim prenait les filles avec ma mère, ils allaient faire des activités. Moi, je me reposais au maximum. On préparait l'arrivée de bébé tous ensemble. On a énormément parlé aux filles. On avait des livres. Elles jouaient beaucoup avec leur bébé. On avait installé des choses dans la chambre. Les filles attendaient vraiment.
J'ai l'impression que la grossesse, malgré la fatigue et l'intensité, s'est passée de manière quand même assez sereine.
Ah oui, c'était très serein. Toutes mes grossesses étaient très sereines parce qu'encore une fois, j'ai de la chance. Je ne suis pas malade en étant enceinte. C'est une chose que j'ai oublié de raconter pour comment j'ai su que j'étais enceinte. C'est aussi que j'avais des nausées et que je trouvais ça bizarre. Et je me suis dit, oh, c'est l'altitude. Et la fin de grossesse était super parce qu'on en a vraiment profité et on attendait que ce bébé arrive. Il faisait chaud à Abu Dhabi, on allait à la piscine. J'adore l'eau, donc on était bien dans l'eau. J'étais bien dans l'eau. Et puis on attendait, on lui disait, Lou, on t'attend. On lui parlait, on disait, maintenant tu peux venir. Parce qu'en fait, moi, j'avais peur qu'elle arrive plus tard, ce qui aurait été totalement OK, mais j'avais peur qu'elle arrive plus tard parce qu'après, c'était la rentrée scolaire, la première rentrée scolaire de Zoé fin août. Donc, Lou était censée arriver mi-août. La rentrée scolaire à l'école, la petite section pour Zoé, un gros changement était 2 semaines après la due date. Et moi, je voulais pas que bébé arrive et que je puisse pas être là pour emmener Zoé à l'école le premier jour. Je voulais vraiment être là pour elle. Clémentine allait à la crèche et je voulais être là pour leur premier jour à l'école parce que c'était beaucoup de changements. Mais j'étais aussi sereine parce qu'il y avait ma maman qui était là. Et autant, je voulais personne pour la première grossesse, ni pour la deuxième d'ailleurs. Mais pour ce postpartum, je voulais pouvoir connecter avec mon bébé, mais je voulais pouvoir mes grandes, elles soient bien aussi. C'était important pour nous. Donc c'est pour ça que ma maman était là et elle a pu bien s'occuper des filles. C'était important. Et aussi pour l'accouchement. C'était important qu'on sache que les filles sont en sécurité et qu'on s'occupe d'elles pendant l'accouchement parce que c'était pas le cas pour Clémentine, pour l'arrivée de Clémentine.
Vous l'appeliez déjà Lou quand tu étais enceinte?
Oui, on a toujours appelé nos bébés par leur prénom. Quand ils étaient dans mon ventre, quand elles étaient dans mon ventre. Par contre, on n'a jamais dit à personne. On n'a jamais dit les sexes non plus. Sauf que pour Lou, tout le monde savait que c'est une fille, parce que Zoé le disait à tout le monde. parce qu'on me l'avait dit. Mais c'était OK. Nous, on le disait pas, mes deux enfants le disaient. Enfin, Clémentine ne parlait pas, donc c'était facile, mais... Et c'était drôle, on a joué avec ça tout l'été avec nos parents, parce que même avant, même dès le mois de mars, je m'en rappelle, parce que ma mère essayait de poser des questions, puis Zoé, des fois, elle lâchait des petites informations, mais ma mère entendait pas, je disais « Ah !» Et en plus, elle savait le prénom. « Tiens, maman, Zoé vient de dire le prénom du bébé. Oh, »« Ah mince, j'ai pas entendu !»« Oh non !» Mais notre passage en été en France, tout le monde, notre famille proche savait le prénom de Lou et savait que c'était une petite fille, même si je gardais un peu la surprise, parce que je disais, ma mère me disait « De toute façon, c'est une fille. » Je dis je sais pas, c'est un prénom qui fait les deux sexes. Je jouais là-dessus. Ah, mais Zoé m'a dit, je sais pas. Peut-être que c'est un garçon, peut-être que c'est une fille. Et ma belle-mère disait, non, c'est une fille. Je dis, on verra bien.
Et comment tu as choisi le prénom ? Vous avez choisi ?
On a choisi le prénom. Alors, moi, j'ai toujours voulu appeler mes filles Léonie. Parce que mon grand-père s'appelait Léon et j'adore ce prénom. Et Kim aussi aime beaucoup ce prénom, Léonie. Mais il savait que j'allais l'appeler Léon si c'était une fille. Et ça, il voulait pas. On a choisi Zoé, on a choisi Clémentine et Lou est arrivé. On cherchait des différents prénoms. Alors ça a été Léonie pendant longtemps. J'avais réussi à le convaincre, mais en fait Léonie on l'aura jamais parce que Zoé a failli s'appeler Léonie, Clémentine a failli s'appeler Léonie, Lou a failli s'appeler Léonie, mais personne ne s'appelle Léonie. Peut-être que si un jour on a un quatrième, je ne pense pas, mais ça s'appellera Léonie, on rigolera. Et Lou, Lou, j'ai proposé à Kim et what about Lou? Parce que Lou c'est short, c'est sweet. Ça complète bien. Et il m'a dit, ah bah oui, Lou. Lou, c'est bien. Donc du coup, pendant longtemps, on a appelé Léonie, puis après, on a dit non, c'est Lou. Et puis, c'est devenu Lou, et les filles ont dit, on leur a demandé leur avis, elles ont dit, oui, Lou, c'est chouette. Et on a commencé à appeler Lou, et puis c'est comme ça. Par contre, les garçons, heureusement qu'on n'a pas de garçons, parce que on a plein de noms, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Alors que les filles, Zoé, c'était Iné, Clémentine aussi, et Lou aussi, au final. Et l'histoire de leur prénom, leur deuxième prénom surtout, qui est très important pour nous. Zoé, Philippine, parce que mon papa s'appelait Philippe. Clémentine, Odile, c'était la grand-mère de Kim. Et puis Lou, Claudine, pour ma mamie, pour son prénom. Et au final, un prénom court, puis deuxième prénom long, deuxième prénom assez court, court et long. Voilà.
On va revenir sur la fin de la grossesse, pour arriver à l'accouchement.
Oui.
À quel moment tu as senti que la fin arrivait là, que ça y est, c'était imminent, et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là?
J'ai pas vraiment senti que c'était imminent et que c'était la fin, parce que je trouvais ça long, la fin. Je me disais, allez, viens, j'ai envie. Maintenant, on a envie de te rencontrer. On lui disait tous les jours, allez, viens, s'il te plaît, viens. Et aussi parce qu'il y avait cette fameuse date. Il y avait aussi un point très important. Il y avait l'anniversaire de Clémentine le 21 août. Et je voulais pas que bébé naisse autour de son anniversaire, et surtout pas le jour de son anniversaire. Donc, Lou est née le 13 août. Clémentine est née le 21. Et j'arrêtais pas de lui dire, s'il te plaît, viens maintenant, viens, parce que je veux que ce moment, je veux que vous ayez chacune vos anniversaires. Je veux que ça soit précieux pour vous, parce que moi, j'adore ma date d'anniversaire et je veux pas que ça soit mélangé. Je veux que vous ayez chacune votre identité, c'est important pour moi. Et voilà. Et puis, la fin de la grossesse, donc on disait à Lou, allez, viens, on allait à la piscine. Tout était prêt et puis maintenant, il fallait qu'elle arrive, parce que je voulais pouvoir profiter de ces premiers 15 jours avant la rentrée, parce que je voulais être sur pied pour être à la rentrée des filles. Et moi, je voulais rester 10 jours au lit aussi. Donc au final, merci Lou, ça a été parfait parce que t'es née le 13 et je suis restée au lit longtemps. Je me suis bien levée pour l'anniversaire de Clémentine, mais j'étais à la maison. Donc j'ai pu vraiment faire 15 jours au lit à la maison avant la rentrée et j'étais là à la rentrée pour les filles. Donc Lou a exactement écouté ce que je voulais parce que je lui ai parlé. Le loup est arrivé. Alors déjà, moi je voulais absolument qu'elle naisse dans l'eau. On allait aller à l'hôpital d'Anat Al Amarat à Abu Dhabi qui venait de lancer leur birth pools. Tout était prêt. On prépare nos naissances en hypnobirthing. Donc, j'étais prête. J'avais hâte. J'adore accoucher. J'étais prête. J'étais excited. J'étais impatiente.
J'adore accoucher. Il y a quand même très peu de gens qui disent ça.
Bah ouais.
Pourquoi?
Mais c'est tellement puissant. Tu te rends compte de ce que ton corps est en train de faire. Cette puissance de savoir qu'on a notre bébé, que notre bébé va naître et qu'il va faire cette danse pour sortir de nous et que c'est naturel au final, on est des mammifères et qu'on sait accoucher et c'est tellement puissant, c'est un voyage pour moi vraiment. Et alors oui, c'est intense, mais moi je climb mountain and I'm going down. Et à la fin, t'as ton bébé qui arrive avec toi. Et c'est une expérience, c'est vraiment... je vais pas dire c'est once in a lifetime parce que je l'ai fait plusieurs fois. Mais c'est tellement unique comme expérience, tu le fais, et c'est pour chaque enfant, et chaque accouchement est différent. Et je pense vraiment qu'une naissance peut être hyper positive, parce que pour moi, tout est dans la tête. Alors oui, effectivement, il y a ton corps qui est derrière, mais tu te prépares physiquement, tu te prépares mentalement. Et puis, il faut avoir ta personne qui est avec toi, c'est une birth team, on est deux, on accouche en couple. Pour moi, c'est hyper important. Tu le fais pas tout seul. Tu le fais avec ton partenaire. Et du coup, bah oui, j'adore accoucher parce que tu sais qu'à la fin, tu vas voir ton bébé. Et en fait, oui, il y a un moment où c'est fucking hard. Mais tu le fais parce que c'est intense et puis c'est tellement ton corps se met dans un état. Et puis après, c'est ton corps qui prend le contrôle. C'est même plus toi, en fait. Et puis quand tu, au moment où le bébé arrive, bah, tu sais que c'est là et paf, le bébé arrive. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Et je souhaite que toutes les femmes sachent à quel point ton corps et toi, tu peux le faire. C'est naturel d'accoucher. Ça a vraiment été ma bataille. C'est ma bataille d'expliquer à ces femmes que eh ben, ça peut être génial d'accoucher. Du coup, moi, j'attendais, j'avais hâte parce que je voulais aller accoucher dans l'eau. Et c'est ça, toute l'histoire de Lou, c'est que ça ne s'est pas passé dans l'eau. Et c'est pour ça aussi que j'ai été déçue. Alors, il faut revenir sur les autres naissances. Clémentine, Zoé d'abord. Zoé est née dans l'eau, à la maison. C'est incroyable. C'était une naissance parfaite, incroyable. Vraiment, dans notre cocon, avec notre sage-femme, l'autre sage-femme qui est venue. C'était une histoire incroyable. Dans l'eau, j'ai adoré. J'ai dormi entre les surges, entre les vagues. Kim était là, avec moi, et c'était fou, 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 fou. Clémentine, c'était aussi absolument incroyable et complètement différent parce que Clémentine était née à la maison. Clémentine est née dans le garage à la maison. Et c'est très rigolo aujourd'hui parce que maintenant que Clémentine commence à parler, elle parle de leur naissance. Et parce que Zoé arrête pas de dire « Moi, je suis née en Australie à la maison. » Toi, Clémentine, t'es née dans le garage et t'es tombée par terre. Alors que pas du tout. Clémentine est née à la maison parce que je ne voulais pas coucher à l'hôpital. Je voulais pas y aller. Même si Kim m'avait dit dans la journée « Je pense qu'il faut y aller », j'avais dit « Non ». Je veux attendre de mettre Zoé au lit et on ira après. Parce que j'allaitais encore Zoé aussi. J'ai allaité juste au dernier moment. J'ai allaité Zoé, j'avais des contractions l'après-midi et on savait que ça serait là. Pour Clémentine, je le savais le matin, la piscine, je savais que c'était aujourd'hui. Pour Zoé, je le savais le matin aussi que ça allait arriver. Même si Kim me dirait, t'avais dit que ça arriverait peut-être dans quelques jours, mais moi je savais que ça arriverait maintenant parce que jusqu'à 3 heures avant la naissance de Zoé, j'ai dit, oh, ça sera peut-être demain ou un autre jour. Et Clémentine, Clémentine, j'ai voulu attendre parce qu'il n'y avait pas de personne de confiance pour s'occuper de Zoé. Et je ne voulais pas Zoé, j'avais jamais raté une nuit, enfin, de la mettre au lit une nuit et je voulais être là pour le faire. Donc, je lui ai donné à manger, j'avais mes contractions pendant qu'il mangeait, je l'ai fait téter pendant que j'étais, finalement 3 quarts d'heure avant la naissance, 1 demi-heure avant la naissance de Clémentine, mais c'était tellement intense. Et puis, du coup, on l'a mis au lit. Et notre amie qui devait venir s'occuper de Clémentine n'était pas encore arrivée. Elle avait dit, elle arrivera dans 1 demi-heure. Et moi, j'avais dit à Kim, je crois que ça va pas être possible, en fait. Il faut qu'on y aille. Et donc, du coup, on avait décidé de laisser Zoé dans sa chambre en sécurité et nous de commencer à partir et que notre copine allait arriver entre temps. C'était le plan. Et puis, on est descendu en bas. Et puis, Kim avait pas de t-shirt. Il est remonté. Il est tombé dans l'escalier en redescendant parce que je lui ai dit, j'ai hurlé en disant, Kim, la tête est sortie. Et puis, il y avait le voisin en face. On lui avait dit d'appeler quelqu'un. Et il m'a dit, mais non, il a baissé parce que j'avais encore mon pantalon. Pour tous mes, alors, à part Zoé, où du coup, j'étais dans une piscine. Mais pour Lou et Clémentine, j'avais encore en culotte jusqu'au moment où leur tête est sortie. Et du coup, Clémentine est arrivée, qui m'a baissé mon pantalon, ma culotte, et a vu la tête de Clémentine. Et Clémentine est née dans les bras de son papa. Elle n'est pas tombée par terre. Non, non, non. C'était la naissance de Clémentine. Et donc, c'est très rigolo aujourd'hui de savoir que Zoé et Clémentine reparlent de ça. Et en ce moment, elles en parlent beaucoup, de comment, de la naissance, de leur naissance, et de comment Clémentine est née dans le garage. Tout ça pour revenir à la naissance de Lou, où tout le monde faisait des blagues en me disant « De toute façon, elle va naître dans le jardin. » Et je disais « Mais non, je vais aller à l'hôpital cette fois-ci parce qu'il y aura la naissance dans l'eau et que c'est possible et que je connais l'hôpital, j'ai visité, que je m'y sens bien, je m'y sens très bien et que la sage-femme et ma docteur, j'adore et que ça sera très cool. » Et donc, je m'étais mise en tête que oui, j'irai à l'hôpital, même si moi, j'ai jamais voulu aller à l'hôpital. Et c'est aussi parce que les hôpitaux, pour moi, ça me rappelle la mort de mon père. Et du coup, je voulais pas que ça soit associé avec les naissances. Donc, il y a aussi tout ça derrière. Si j'avais pu le faire à la maison à Abu Dhabi, je l'aurais fait. Est-ce que je regrette que Lou ne soit pas née à la maison? Peut-être. Peut-être que j'aurais dû pousser et refaire encore à la maison. Mais je voulais pas non plus. Si jamais il y avait une complication, je voulais pas qu'il y ait un problème. Et je sais que Kim était ravie. Quand Clémentine, on savait qu'elle était bien à la naissance. Et moi, jamais, ça m'a traversé l'esprit que mon bébé pourrait avoir un problème à aucun moment. Par contre, c'était dans l'esprit de mon mari. Moi, jamais, pour aucune des naissances, j'ai pensé à ce que l'enfant puisse être mort, né à la naissance. Jamais j'y ai pensé. Jamais, jamais. Kim, par contre, oui, il m'a dit, heureusement que Clémentine va bien, parce que je sais pas comment ça serait passé si jamais il s'était passé quelque chose, parce qu'elle était née à la maison et qu'on n'avait pas de soutien.
Est-ce que le fait d'accoucher à l'hôpital, ayant perdu ton papa, est-ce que ça pouvait être aussi une façon de transformer ce souvenir ?
peut-être. Maintenant, j'ai beaucoup, avec mon travail, beaucoup travaillé aussi dans les hôpitaux, et on y va aussi de temps en temps pour les enfants, donc je sais très bien que c'est un endroit où on doit aller pour notre santé à tous. Donc c'est beaucoup moins associé à la mort que ça n'a pu l'être. Mais pour ma première naissance, c'était trop frais, trop proche, je pense encore. Et vu que c'était une expérience nouvelle, je voulais pas. Là, c'était différent. J'étais prête aussi, peut-être psychologiquement, à aller accoucher à la maternité. Du coup, pour Lou, quand ça s'est passé, en fait, c'était le soir. Et en fait, j'ai perdu les os vers 22h. Mais ma poche s'est fissurée, ce qui ne s'est jamais passé pour les deux premières. Pour les deux premières, j'ai eu des contractions. Le travail a commencé et la poche des os, c'était plus, beaucoup plus longtemps dans le travail. Là, c'était nouveau pour moi et ça m'a complètement chamboulée parce que c'était pas prévu. C'était pas dans mon birth plan de savoir que je pouvais perdre de l'eau comme ça, en fait. Genre, mais pourquoi est-ce que ça coule maintenant? Je vais bien, j'ai pas de contraction, j'en ai un peu, mais c'est rien. Et moi, je suis la première à dire, n'allez jamais à la maternité avant que vous ayez le nombre de contractions qu'il faut et tout ça. Et moi, là, je savais pas quoi faire. J'ai dit à Kim, j'ai dit, mais écoute, je perds quand même de l'eau, c'est sûr. Il dit, t'es sûr que c'est du liquide amniotique? Je dis, bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je sais ce que c'est maintenant du liquide amniotique sans nez. Donc, il dit, bah écoute, on se couche et puis on voit. Et puis ça continue à couler, mais très finement, mais ça coulait quand même. C'était dans la nuit, les filles dormaient, ma mère était là, tout allait bien, on savait. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'y va pas. Parce que moi, on m'avait dit, ah bah si le liquide sort, il faut aller à l'hôpital. Mais en même temps, je suis pas prête à accoucher. Donc j'ai écrit à ma meilleure amie, je lui dis qu'est-ce que je fais? Elle me dit, bah écoute, en France, normalement, faut que t'ailles à l'hôpital. Je dis à Kim, j'ai dit, bah écoute, on est prêt, on y va. Au pire, tout le monde va bien. Au pire, on passe un peu de temps à l'hôpital et c'est pas grave. Au moins, on fait checker. Et si on doit rentrer, on rentre, mais on fait checker. Donc, on dit, OK, les affaires étaient prêtes. Donc, bon, on y va. On n'est pas loin. On y va très sereinement. On prévient ma mère en disant, bah, on pense que ça va arriver. Ma mère m'embrasse et dit, vous inquiétez pas, je vous occupe des filles demain. Vas-y, on va au summer camp. Je vous emmène à la crèche. Tout va bien. Donc voilà, les filles étaient prêtes, elles savaient que ça pouvait arriver à n'importe quel moment, donc tout ça c'était bien. Donc on a fait le trajet pour l'hôpital, très sereinement, et puis quand on est arrivé, donc on avait prévenu, et puis ils savaient absolument que je voulais une naissance dans l'eau, j'avais été très claire avec ça, toute l'équipe de naissance le savait. Donc quand on est arrivé, on est allé à l'endroit où on doit être au triage au final, et là on a commencé à avoir l'expérience de l'hôpital, que je déteste. Au milieu de la nuit, il n'y avait personne, on explique, et là on a dû réexpliquer notre birth plan, que je voulais accoucher dans l'eau. Ah, mais d'accord, on va vous checker. Donc, du coup, on est allé dans cet endroit, évidemment, super, avec plein de lumière et tout. Ils ont checké. C'est vraiment loin pour moi. Je sais que je ne l'ai pas encore raconté parce que j'ai pris du temps et je pense que quand je vais l'écrire aussi, cette histoire, que on le fera ensemble pour qu'il me rappelle des moments que j'ai oubliés. Mais en tout cas, 10 mois après, voilà ce dont je me rappelle, c'est que, y avait ces gens qui m'appellent le droit de venir avec moi dans la salle de triage. Et du coup, ils ont regardé, je leur ai expliqué ce qui s'était passé, mais il n'y avait pas trop de contractions au final, donc fallait attendre. Et je leur disais, non, mais moi, vous avez mon birth plan? Est-ce que vous avez prévenu ma docteur? Est-ce que, maintenant, est-ce que mon mari peut venir? Non, il ne peut pas venir. Est-ce que mon mari peut venir, s'il vous plaît? Et ensuite, prendre ma torsion, tout ça. Et puis, je leur ai dit, mais moi, je veux une naissance dans l'eau. Ah non, si. Mais trouver mon birth plan. Donc, ça a été beaucoup back and forth avec ces gens qui étaient vraiment désagréables. Au bout d'un moment, on leur a dit, mais appelez les sages-femmes. Et donc, du coup, ils ont dit, ah, c'est bon. Et moi, je leur ai dit, mais moi, je veux pas rester ici, là. Emmenez-moi en salle de travail. Je veux être là-bas. Sauf que j'étais pas du tout en travail. Et ils m'ont dit, est-ce que tu penses que t'es en travail? Je dis, bah, non, clairement pas. Mais ma poche des os avait été fissurée. Donc, je pouvais pas rentrer à la maison. J'avais pas le droit. Donc, on est rentré un peu dans un piège, au final. Au final, j'aurais pu rester à la maison au moins jusqu'au lendemain matin. Parce qu'il était 2h du matin, à ce moment-là. J'aurais pu rentrer dans la maison. Mais bon, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on est là, voilà. Je n'avais pas pensé à ce moment-là aux impacts que ça pourrait avoir d'avoir une poche fissurée et au délai pour pouvoir faire un accouchement dans l'eau et tout ça, aux infections et aux horaires. Pour moi, c'était clair et net que j'allais accoucher dans l'eau. C'est pas moi qui ai choisi, c'est les infections, le risque d'infection. Donc j'étais coincée, en fait, c'était ça. C'est ça qui était très frustrant dans la naissance de Lou, c'est que je ne me suis pas sentie en contrôle. J'ai perdu le contrôle. Je savais qu'il y avait toutes les possibilités, mais j'ai perdu le contrôle à ce moment-là. Moi qui est tant en contrôle et qui savais toutes les options, qui sait comment accoucher le plus naturellement possible, j'ai perdu le contrôle à ce moment-là en me disant, OK. Donc, on est arrivé dans la salle de travail, là où il y avait la baignoire. Ils ont commencé à mettre la baignoire. On a rencontré la sage-femme, hyper gentille, Teresa, on a adoré. On commence à sortir mes bougies, tous mes mantras, mes lumières, ma musique, tout ça. Et puis Teresa me dit est-ce que tu sens que tu vas bientôt accoucher? Je lui dis honnêtement non. Là, le travail n'a pas commencé. Je n'ai pas commencé parce que bah oui, je suis là parce que j'ai perdu les os. Elle me dit bah oui, c'est ce que je pense. Elle me dit je pense que il va d'abord falloir que tu ailles dans l'autre endroit et jusqu'au moment où tu sois prête pour aller dans l'eau. OK, donc on va dans cet autre endroit. Donc là, je l'ai jamais revu au final la pièce de l'eau parce que il était 3h du matin, 2-3h du matin à ce moment-là et puis on a été transféré dans le pre-labor ward. Et puis bah là, on a attendu. Kim a dormi sur le canapé, moi j'ai dormi un peu. Mais bah, je déteste l'hôpital, ça rentre, ça sort. Tout le temps, on te pose des questions, mesure ta tension. Tous les trucs que je déteste, genre laissez-moi tranquille. Et on mesure les contractions et ça avance pas. Ça avançait pas. Toute la journée comme ça, donc le matin, bah, on a parlé, on a lu, je crois. Je travaillais un peu. On nous contrôlait, puis après il y a eu le problème du temps. Là, on a commencé à me dire, pour avoir la naissance de l'eau, il faut que ça soit dans les 24. Si on a la naissance dans l'eau, il faut que ça soit dans les 24 heures. Sinon, tu peux plus, il y a risque d'infection et tu peux plus aller dans l'eau. Ah, ça, je n'avais pas pensé. Donc là, je me suis fait voler ma naissance dans l'eau. Et là, mon cerveau, il s'est mis en mode, il faut accoucher, mais ça marche pas comme ça. Je parlais beaucoup à Lou en lui disant, Lou, s'il te plaît, viens, je voudrais que tu naisses dans l'eau. Et puis j'ai marché, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait dans cet hôpital, mais je faisais des tours dans le couloir. Et il y avait ces horloges avec le temps, et je calculais combien de temps il me restait pour pouvoir aller dans l'eau. Et là, mon cerveau s'est mis en mode, de toute façon, je pouvais rien contrôler de plus. Et puis ils ont commencé à me parler d'induction, et j'étais là, non mais, no way, je ne veux, vous ne touchez pas. Je demande à mon amie en France, Anne-Sophie, en lui disant « Mais du coup, est-ce que t'en penses quoi du décollement des membranes ?» Moi, je voulais pas, j'ai jamais été touchée, jamais. Je ne voulais pas d'invasion, je voulais personne me voit, personne me touche, je voulais vraiment faire tout naturellement. Et je me suis dit « Bah, si jamais on fait décollement des membranes, peut-être que ça peut accélérer les choses et que du coup, peut-être que je peux accoucher dans l'eau. » Oh, peut-être pas. Du coup, j'ai demandé à voir ma gynéco. Donc, elle est venue me voir, docteur Soumaya, quel génial. Et elle savait très bien à quel point j'étais préparée. Et elle savait très bien que je connaissais les options. Et je lui ai dit, mais vous en pensez quoi? Est-ce que je le fais ou pas? Elle m'a dit, écoute, c'est pas très invasif. C'est une induction douce. Il y en a, ça peut être fait. Et puis, donc je m'étais dit, ah, peut-être que je vais le faire. Et puis, je continuais à marcher. Et je vais quand même parler de cette nana qui s'appelle Charlotte, qui était une des mamans de ma communauté, qui s'est retrouvée, on s'est retrouvée avec son mari le matin même. Elle aussi, même situation, elle avait aussi perdu les os à la maison. Sauf qu'elle, elle est restée la nuit à la maison. Ils sont venus après. Et en fait, on était dans le même endroit. C'était son premier bébé, elle, et on a marché ensemble. Donc on a accouché, nos bébés sont nés le même jour, à une demi-heure d'écart, au final. C'était rigolo, je suis allée la voir le matin même après. Toute l'après-midi, j'ai marché. On s'est posé la question de l'induction, et puis Kim, à un moment, m'a dit clairement, Juliane, faut que tu oublies la naissance dans l'eau. Ça, c'était très dur, très très dur. Et puis, j'avais vraiment cet horaire des 18h en tête, où à 18h, il m'avait dit, on va devoir faire une perfusion pour les antibiotiques. Pour pas avoir risque d'infection. Et moi, c'était très très dur à accepter le côté médical qui touche mon accouchement. C'était le premier truc médical au final. Et du coup, je voyais cet horaire et je m'étais mis en tête que de toute façon, il va falloir. J'avais décidé que l'induction c'était non. Je ne voulais pas. Et j'avais discuté avec l'équipe médicale et j'avais dit ok. La sage-femme m'avait dit, tu sais vraiment pas la sage-femme parce qu'on n'a pas vu de sage-femme à ce moment-là. On était vraiment dans le ward et c'était les nurses. Je me suis jamais mis dans le mode naissance parce que j'étais pas dans l'environnement naissance. On était dans un hôpital avec des nurses, avec des infirmières. Et il y a une sage-femme qui est venue quand même et qui m'a dit « Ok pour l'induction si tu veux pas, par contre, s'il te plaît pour le bébé, prends les antibiotiques. » Et qui m'avait dit « Ça serait bien quand même. » Et j'avais dit « Ok, je veux bien le faire. » Et là, à 18h, quand ils m'ont mis ma perf, moi j'ai tout lâché. Là, j'ai pleuré parce qu'on me volait ma naissance dans l'eau et j'avais une aiguille qui me rentrait dans le corps. Mais c'est parce que je voulais absolument ça et que du coup, j'ai perdu le contrôle et du coup, on m'a mis cette aiguille dans la main gauche. Et je leur avais dit, j'accepte. Par contre, ma condition, c'est que le cathéter. Je leur avais dit, je ne veux pas du cathéter dans la main. J'ai dit, vous mettez votre poche si vous voulez. Par contre, après, ça part. Je ne veux pas même le voir, en fait. Et ils m'avaient dit, OK, mais par contre, toutes les 6 heures, il faudra le remettre. Et j'ai dit, vous me repiquerez, je m'en fiche. Mais je ne veux pas de ce truc sur la main parce que je sais très bien à quel point ça fait mal. Ça fait hyper mal et je ne voulais pas l'avoir. Ils avaient dit ok, donc c'était le deal, c'était ok. Donc là, quand ils m'ont mis ça, moi je me retenais de pleurer, mais je pleurais quand même de côté. Puis je me rappelle plus de son nom, mais il y a une infirmière qui est venue checker pour voir si j'allais bien. Et j'ai tout lâché. Et mon mari Kim lui a dit, Là, pour elle, c'est le gros échec, en fait. Je le voyais comme un échec, gros échec, de me dire que bah, j'allais pas pouvoir accoucher dans l'eau, même si je leur avais demandé « Est-ce que je peux aller faire le travail dans l'eau, me mettre dedans ? J'ai besoin de me mettre dans l'ambiance. » Ils avaient refusé. Donc, j'ai dit au revoir à ça. Et après, il y avait du coup les antibiotiques et après, il y avait le temps qui commençait à se mettre en marche. Il y avait l'induction qui arrivait à 30 heures, je crois. Et là, on était à 18 heures. Du coup, quand j'ai eu l'intraveineuse, c'était à 18 heures que j'avais perdu les œufs. Et ils avaient dit à 24 heures, normalement, il faut induction. Et j'avais dit non, 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 jamais. Et moi, j'avais du coup ce minuit en tête. Il fallait qu'elle arrive avant minuit, absolument. Parce que je voulais pas qu'il y ait l'induction. Parce que ça, c'était encore un autre step. Et du coup, on était quand même au mois d'août à Abu Dhabi. Il faisait très, très chaud dehors, très humide. Et on est allé marcher dehors. On a fait des tours de quartier. Je sais pas combien de kilomètres j'ai marché cette journée-là, mais je marchais. Et puis les contractions venaient, mais c'était quand même pas ça. C'était quand même pas la folie, quoi. Et je crois qu'il était 23 heures quand on est, après, j'ai dit à Kim, j'écoute là, moi j'y arriverai jamais ici. Il y a trop de bruit autour. Je suis pas dans le mood. C'est pas possible, quoi. J'ai dit, moi j'ai besoin de me mettre dans mes mantras. J'ai besoin de faire mon hypnobirthing. J'ai besoin d'avoir des lumières tamisées. J'ai besoin d'avoir les midwives autour et pas des nurses. Et je veux pouvoir me mettre dedans parce que là, maintenant, je regardais l'heure et il allait avoir une autre intraveineuse, donc ils me l'ont faite, qui m'est partie en mission. Pour leur dire que sa femme voulait aller en salle d'accouchement. Donc, ils m'ont remis le truc autour du ventre pour contrôler les contractions et tout ça. Ils mesuraient. Moi, j'étais là, allez, vas-y, il faut qu'il y ait des contractions. Parce que si je n'ai pas tant de contractions en tant de temps, ils ne vont pas me laisser y aller. Et c'était pile poil bon. Je disais, vas-y, viens, viens. J'avais envie d'accoucher. Je voulais que tu viennes. Et Kim leur a dit, ma femme veut descendre. Et il y avait la sage-femme de garde qui voulait, il y en avait une qui était en charge, qui voulait absolument venir et qui m'a fait forcing devant la porte et jamais personne n'est rentré en disant « Vous lui parlerez pas, vous me parlez à moi, ma femme, vous lui parlerez pas ». Du coup, elles n'étaient pas contentes, mais ils sont pas rentrés. Et c'était bon, on a réussi à négocier en salle d'accouchement. Et j'ai dit à Kim, je ne veux pas marcher, je veux voir personne. Donc, ils m'ont mis sur une chaise roulante. Je me suis mis avec mon casque, mes mantras, ma musique, dans le noir. Je me suis mis un masque, je me suis caché les yeux et puis ils m'ont transféré et je suis arrivée en salle d'accouchement. J'ai vu personne. Je voulais quitter cette pièce. Ça faisait longtemps qu'on était là, ça faisait longtemps. Donc, je voulais vraiment aller en salle d'accouchement. Et puis là, direct, je me suis dit, ah, ça y est, c'est bon. Allez, on va pouvoir... ça y est, on va accoucher. Donc, du coup, pièce tamisée. La midwife qu'on avait vue avant était rela. C'était trop bien. Et puis, on a pu mettre nos mantras. Et puis là, les contractions commençaient à venir. Par contre, il faisait très, 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 très froid dans la pièce. Genre, j'étais gelée. Je grelottais tellement j'avais froid. Donc là, on est arrivé en salle d'accouchement. Il devait être 1h du matin, je crois, ou minuit. Donc, il m'avait fait une intraveineuse avec les antibiotiques qu'il m'avait enlevé. La sage-femme était au courant. Et puis après, on s'est mis dans notre petite bulle avec les huiles essentielles, la lumière. Et puis voilà. J'ai réussi à me créer mon monde. J'étais sous la douche plusieurs fois. Je changeais de position plein de fois. J'étais fatiguée. Parce que ça faisait longtemps qu'on était à l'hôpital. J'étais exténuée, Kim était fatiguée aussi. Et vers 2, 3, 4 heures du matin, je ne sais plus, j'ai fait une sieste. Parce que Kim a dormi, je lui ai dit, écoute, dors. Parce que là, de toute façon, moi, je suis épuisée, le bébé, il faut que je prenne des forces. Pour la dernière ligne droite, j'ai des contractions, mais il faut que je dorme. J'ai pris une douche, j'avais trop froid, on a changé de pièce. Et après, c'était beaucoup plus cocon, il faisait chaud, et on était mieux, on a fait la sieste. Je passais quand même mes contractions entre-temps, mais je dormais aussi. Et puis, donc j'ai fait ma sieste. Et quand je me suis réveillée de ma sieste, je lui ai dit, écoute, ça y est, c'est bon, là, on va le faire. Et je pense qu'il était 5h du matin. Et je lui ai dit, ça y est, là, c'est bon, ça va aller. Puis il y avait le 6h du matin, ça aurait fait 30h, du coup, que j'avais perdu les os. Enfin, que ça s'était fissuré. Et là, il y avait le induction red. En disant, si jamais ça avance pas, va falloir un induction. Mais je dis, non, no way. Donc là, j'ai beaucoup passé de contractions sur les toilettes. C'était l'endroit où j'étais bien. Et là, c'était intense. Ça y est, c'était intense. Donc, je faisais des allers-retours. J'ai accouché de Lou sur les genoux, sur la table d'accouchement, mais à quatre pattes, avec mon oreiller de grossesse. Alors que Zoé est née à quatre pattes dans l'eau, Clémentine est née debout. J'étais debout. Et donc, Lou à quatre pattes.
Vous n'avez pas d'épidurale, du coup, à ce moment-là ?
J'ai jamais eu de péridurale, non. J'ai toujours été, je voulais pas, pas besoin. Je pouvais mentalement, je pouvais y arriver, je savais que je le ferais. J'ai jamais demandé d'ailleurs. Elle m'a jamais proposé quoi que ce soit comme aide. J'ai eu une perf à 4 heures du matin, je sais plus. J'en ai eu une autre. Ou alors elle devait la faire. J'en ai eu 3, je crois, en tout. Ouais. Elle m'a repiqué, elle a renlevé le cathéter. Et puis à un moment donné, je sais qu'elle a parlé avec Kim en lui disant, bah là, si ça arrive pas, il va falloir qu'on ait un duo. Il lui a dit, c'est bon là, je connais ma femme, je connais ses cris, et je sais que là, c'est la fin. Elle a dit ok. Et je sais plus quelle heure il était. C'était tôt le matin. Kim était du coup à ma gauche. J'étais en quatre pattes. Et puis il y avait cette horloge. Faut qu'ils arrêtent avec. Il y avait une horloge au-dessus. Je regardais l'horloge tout le temps. Et du coup, Teresa, donc j'étais en holdfond. Je passais mes surges. Elle m'aidait, me caressant le dos, en m'encourageant. Et ça se faisait, elles étaient intenses, ok. Et puis à un moment donné, elle m'a dit « Juliane, il faut quand même que tu saches que bah, là, ça va être la fin de mon shift. » Et que du coup, il y a une autre sage-femme qui va venir. Elle dit « Si tu veux que je rencontre ton bébé, eh ben, il reste 30 minutes, quoi. » Ah, j'étais là. Oh là là. C'était la course contre la montre, cet accouchement. Perte de contrôle et vouloir quand même garder le contrôle et refuser toutes les aides. Et cette heure qui tournait. J'ai encore les images de l'horloge, en fait. Et je lui ai dit, t'inquiète, tu vas la rencontrer. T'inquiète. Et puis, Lou est née à 6h54. C'était très drôle parce que... Et je lui ai dit, c'est bon, là, elle arrive. Je dis, la tête va sortir. Et du coup, à ce moment-là, j'avais encore ma culotte. Et du coup, je lui ai dit, parce qu'on ne m'a jamais checké, on ne m'a jamais mesuré ma dilatation, aucune des naissances. J'ai toujours refusé. Et entre guillemets, pour la dernière, elle ne m'a jamais demandé. Et là, je leur ai dit, maintenant, là, je vais pousser, enlever la culotte. Donc, je dis, dépêchez-vous! Donc, ils l'ont enlevée. Et puis, la tête est sortie direct. En disant, ah, il y a beaucoup de cheveux. Oui, elle est là, elle arrive. Et puis, je crois que j'ai poussé une fois ou deux, je m'en rappelle. Ton corps éjecte le bébé, il sort. Et puis, du coup, l'eau est sortie. Et là, c'était un relief. C'était en mode, ça y est, c'est fini. Parce que c'était long pour elle, pour moi. Pour Kim aussi, au final, c'était long, on n'en pouvait plus, on était fatigués. Et puis du coup, moi, je crois que j'ai fondu en larmes sur mon oreiller en mode « Ah, ça y est, elle est sortie. Ça y est, c'est fini. » Même s'il y avait le placenta qui allait arriver, mais c'était « Ça y est, c'est fini. » Et du coup, moi, ce que je sais pas, c'est que j'ai pas vu Lou tout de suite, mais qu'elle était inanimée à la naissance, apparemment. Je sais pas, ça a duré quelques secondes. Kim m'a vu. Kim était dans un autre monde en se disant « Est-ce que mon bébé est mort ou pas ?» Et du coup, elle lui a fait quelque chose et ça a été très bien, mais ça a duré, je sais pas combien de secondes, mais quelques secondes, et Kim s'est vraiment demandé si Lou était partie. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais moi, je sais pas, j'ai pas vu. Et puis, ça m'a jamais traversé l'esprit, en fait. Parce qu'elle était derrière moi, j'étais à quatre pattes, donc elle est née entre mes jambes, et moi, je regardais dans l'autre sens, donc, et puis j'étais dans l'oreiller. Et elle m'a dit, tu veux prendre ton bébé maintenant? Je dis, non, 2 minutes, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de reprendre des forces, je peux pas, là. Et ça a peut-être duré 30 secondes ou une minute, je sais pas, mais j'ai pas pris Lou tout de suite, automatiquement. Elle était d'abord dans les mains de Teresa. Et puis ensuite, j'ai réussi à me retourner, mais avec beaucoup de difficultés parce que j'étais vraiment très, très fatiguée. Donc, elle a dû m'aider à me retourner. Puis, j'ai pris Lou et puis là, ça allait très bien tout de suite. On a fait la tétée d'accueil et tout s'est très, très bien passé. Et Kim m'a dit, est-ce que je peux lâcher là maintenant? C'est bon, j'ai le droit. Et j'ai dit, oui, c'est bon. Et là, il s'est écroulé sur le canapé. Il a pleuré parce qu'en fait, ça faisait des heures qu'il se retenait et que ça a été intense et qu'on était fatigués. Donc Teresa, notre sage-femme, a fini son shift, elle est partie, elle était trop contente, elle m'a dit « Qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai vu j'ai regardé l'heure et que j'ai vu qu'elle arrivait. » Elle était trop contente de la rencontrer. La sage-femme qu'on a eue après, je me rappelle pas de son prénom, mais elle était très très gentille. Et puis c'était tout doux, vraiment tout doux, ils se sont très bien occupés de nous à Danat. Elle nous a fait une photo de nous trois, qui était très chouette. Elle a pris l'empreinte du pied de Lou. Comme on avait fait pour Clémentine et Zoé, on a fait la tétée d'accueil, elle était avec moi. Et puis quand je sentais que le placenta allait arriver, c'est Kim qui a fait du pot à pot avec elle, comme il a fait avec ses sœurs. Le placenta est arrivé, et puis voilà, j'ai été prendre ma douche. Et ensuite, on est passé dans un autre endroit à l'hôpital, où j'ai toujours gardé Lou avec moi. Et puis là, du coup, il était 7h du matin, donc on a passé la matinée. Quand Lou est arrivée, j'étais évidemment ravie qu'elle soit là. C'était tout naturel. C'était ça y est, t'es là. T'es avec nous et j'ai hâte que tu rencontres tes sœurs. J'ai hâte de te découvrir. C'était super chouette. C'était un moment de plénitude totale. J'ai eu une connexion immédiate avec Lou parce que, oui, c'est mon bébé. Elle était dans moi. On avait déjà quand même la connexion avant, évidemment. Et puis, elle était là dans mes bras et que c'était tout naturel. Et que oui, connexion très, très forte avec ce bébé. Mise au sein très facile, ce bonheur de allaiter un petit bébé, d'avoir ce petit corps tout chaud. C'est trop chouette les premiers instants. Je n'avais aucune appréhension sur est-ce que j'allais aimer ce bébé autant que les autres ou est-ce que j'allais avoir assez de temps pour ce bébé parce que je savais que ce serait possible. On a très bien réussi avec deux et avec trois aussi et ça se complète et on sait que les sœurs, je savais que ces sœurs auraient de l'amour pour elles aussi et j'avais hâte de la rencontrer. J'adore avoir des bébés, c'est tellement chouette. Et puis quand elle est arrivée, c'était tout naturel et puis elle avait sa place dans notre cœur comme ses sœurs ont pu l'avoir. On l'ont aujourd'hui et on est cinq et il y a de la place pour tout le monde et c'est super chouette. C'est vraiment une très belle bulle qu'on a tous ensemble. On est tous différents et c'est trop chouette. Donc l'après-midi, ma maman est venue avec ses sœurs et Kim d'ailleurs. Ils sont venus tous ensemble pour rencontrer Lou. Et moi, je pensais que je les ai entendus arriver et moi, je pensais qu'elle viendrait me voir. Pas du tout. Elles ont sauté voir leur sœur. Et moi, rien à faire. Ma mère, par contre, m'a fait un gros câlin. Mais par contre, mes filles sont allées voir leur petite sœur et elles étaient trop contentes. Puis après, elles sont venues me faire un câlin. C'était chouette. Elles étaient contentes de la voir. On en avait tellement parlé de ce bébé. Le retour à la maison, on l'avait vraiment préparé avec Kim parce que on a suivi les conseils de son papa. Son père, Bertrand, ils sont quatre. Et il se souvient très très bien de l'arrivée de sa petite sœur, donc de la quatrième. Il est le troisième de la quatrième. Et de sa maman qui lui avait dit qu'il devait s'occuper de sa petite sœur quand il est arrivé à la maison et qu'il s'est senti mis à l'écart. Et il nous en avait parlé de ça. Et on avait prévu, on avait préparé l'arrivée de Lou à la maison. On avait préparé que quand on arrivait à la maison, si les filles étaient à la maison, et c'est ce qui s'est passé, que ce soit pas moi qui arrive avec le bébé et que moi, en tant que maman, j'aille directement voir mes filles et que ce soit le papa ou ma mère qui est Lou avec elle pour vraiment montrer que j'étais là pour mes filles. Et c'est ce qui est vraiment très, très important quand on arrive à la maison avec un nouveau membre de la famille, c'est de montrer qu'on est toujours aussi la maman des autres. C'est très important. Et qu'on passe aussi du temps avec ces enfants-là. Parce qu'au final, c'est très compliqué. Évidemment, le bébé a besoin de beaucoup de la maman au début, c'est normal. Mais il faut montrer aux autres et trouver l'espace et le temps de passer du temps de qualité avec les autres. J'ai réussi, même si au bout d'un moment, elles en avaient marre que je sois tout le temps au lit. Mais on a réussi à trouver cet équilibre où moi, c'était clair et net que je voulais passer 10 jours au lit pour récupérer. Donc au moins, il y a cette règle des 5-5-5 où c'est 5 dans le lit, 5 assises dans le lit et 5 autour du lit pour le mois d'or. C'est important. Pour la maman est fatiguée, on a accouché, il y a les premières connexions avec bébé, le pot à pot est très important, il faut se reposer, rester allongé pour que les organes se remettent en place. J'ai réussi à rester au lit parce que j'avais ma maman qui était là pour m'aider, j'avais mon mari, on avait notre nanny Maya, et puis les filles allaient aussi aller à la crèche à ce moment-là, au summer camp, et je leur avais expliqué que j'avais besoin de rester, c'était important pour moi, pour que je sois plus en forme après, que je fasse ça, les choses bien dès le début, pour qu'ensuite je puisse vraiment passer beaucoup de temps avec elle, dans la maison ou en dehors de la maison. Donc oui, je m'étais levée pour l'anniversaire de Clémentine, qui était quelques jours après au final. Mais les filles venaient passer du temps avec moi au lit, on faisait des activités dans le lit, on jouait de la société dans le lit, on restait dans la chambre, c'était le cocon. Donc c'était long pour les filles. « Maman, pourquoi t'es encore au lit ? Maman, pourquoi t'es encore au lit ?» Même ma mère trouvait que c'était long. Et puis, ça dure pas longtemps au final. Et puis c'est important de prendre soin de la maman. C'est très important dans le postpartum. J'en avais besoin, mais je me le suis aussi imposé. Et j'étais beaucoup plus disciplinée avec mon mois d'or pour ma troisième que je ne l'ai pu l'être pour Zoé, par exemple. Pour Zoé, la première, en fait, l'accouchement s'était tellement bien passé. J'étais en forme. Je savais qu'il fallait que je reste allongée, mais en fait, je suis restée à demi allongée, ce qui en fait sert pas à grand chose. Et je me sentais tellement bien avec Zoé que, déjà 3 jours après la naissance de Zoé, on a dû aller faire des photos d'identité. C'était horrible parce qu'on avait été dans la voiture et moi j'étais fatiguée et Kim avait dû me porter pour aller de la voiture au lit. Pour Zoé, j'avais fait une randonnée il y a 3 semaines en la portant en porte-bébé. On avait, dans les Blue Mountains, on avait fait une randonnée. Ce qui s'était suivi, une prolapse. Et du coup, j'ai dit jamais plus, je vais faire attention à mon corps. Alors oui, on pense qu'on va bien, mais même si ton corps va bien, il faut être proactif. Il faut vraiment en prendre soin. J'étais informée, puis on a recommencé. Et puis après, on a recommencé à faire nos petites sorties avec Lou très rapidement, au bout d'un mois. 3 semaines, un mois. Est-ce que je me suis sentie en famille complète avec l'arrivée de Lou ? Je ne sais pas. Je crois pas. Je pense qu'on est très très bien là, mais je pense que je resterai toujours sur cet accouchement que je n'ai pas eu dans l'eau. Et ça, je vais avoir du temps à m'en remettre. Je suis très têtue. Je suis très têtue, très têtue. Mais l'accouchement de Lou s'est très bien passé au final. J'ai été un accouchement naturel au top. C'était très bien et j'ai fait tout moi-même, comme je le voulais, sauf pas dans l'eau. Mais j'étais très bien. Mais j'aime bien accoucher. Alors je pense que je raccoucherai bien encore une autre fois. Mais je pense qu'on a fini. Notre famille est bien. On est bien, tous les 5. On est bien. Est-ce qu'un quatrième pourrait être là ? Je sais pas. Je sais pas. Pour cet accouchement, je me dis que j'aurais... Si je pouvais changer les choses et s'il y avait des si, je serais restée à la maison plus longtemps pour voir si ça allait changer les choses pour après. De pouvoir me mettre vraiment dans cette bulle, comme je sais, j'aime le faire. Parce que je pense que d'avoir été à l'hôpital dès le début, ça a tout modifié. Ouais, le futur au final. Mais c'était comme ça et je suis très contente. Au final, c'était très bien quand même. Et puis au moins, j'aurais été à la maternité. Donc sur le faire part de naissance de Lou, c'est marqué une naissance enfin à la maternité, quelque chose comme ça. Parce que y en a 2 qui sont nés à la maison, mais Lou, toi, c'est spécial parce que t'es née à la maternité. Pour aussi contredire tous les autres gens qui m'avaient dit que j'accoucherais pas à la maternité, si je l'ai fait. Ce postpartum a été très très chouette. C'était tout doux. C'était très doux pour Zoé. Le plus doux possible pour Zoé, parce qu'on était dans notre cocon, que Kim, Zoé et moi, c'était notre premier bébé, il n'y avait personne d'autre autour de nous, il n'y avait que nous et nos chats. C'était trop bien. Et puis Kim avait un mois total. Enfin, il avait même 3 mois. Donc on a vraiment eu un quatrième trimestre incroyable pour Zoé, mais on n'était pas la famille qu'on était aujourd'hui, donc c'était évidemment que ça n'aurait pas été possible de refaire la même chose. Pour Clémentine, c'était différent parce que Clémentine, Zoé était encore petite et on avait un problème de nanny aussi, on avait moins de support. Du coup, c'était plus dur pour Clémentine. Pour Lou, c'était tout doux parce que ma maman était là pour nous aider. Il y avait notre nanny qui était là pour nous aider. Il y avait la reprise de l'école, une routine. Et puis au final, le passage de 2 à 3 est beaucoup plus facile que le passage de 1 à 2. On a trouvé ça très, très soft. Et aussi parce que Lou est un bébé très calme. Même si elle a beaucoup pleuré, elle aussi, elle a eu ses pleurs de décharge, comme ses sœurs l'ont eu et qu'on a eu des soirées très difficiles. Mais les premiers jours, ma mère était là et elle la prenait et ça la dérangeait pas qu'elle hurle sur elle. Elle était calme, ma mère. Je trouvais ça incroyable. Alors que nous, c'est différent. C'est dur de supporter des pleurs d'un bébé. Mais je dirais que ce quatrième trimestre, c'était doux. On a passé vraiment un bon moment.
Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton couple, cette arrivée d'un troisième enfant? Est-ce que vous avez réussi à préserver votre couple?
Alors, le couple est un sujet très intéressant et j'en parle beaucoup, moi, dans ma communauté. Le passage à un enfant très fusionnel avec le mari, je trouve. En tout cas, pour nous, ça a été le cas. Ça a été qu'à la naissance de Zoé, moi, je suis retombée amoureuse de Kim, mais à 200%. C'était waouh, on est une famille, on a fait ça ensemble. C'était hyper puissant, on était très connectés, c'était incroyable. Je sais que ça ne peut pas être c'est pas le cas pour tous les couples, parce que l'arrivée d'un enfant peut chambouler énormément de choses si t'es pas aligné. Bref, nous, ça nous est pas arrivé, c'était très très fort. La naissance de Clémentine a été très dure pour notre couple, parce que le passage de 1 à 2 est beaucoup plus dur, et que Zoé était encore très petite, et que l'arrivée de Clémentine était plus dure pour nous, très très dure même. Je dirais, les 3 premiers mois ont été durs, on se parlait vraiment très très mal. Si à un moment on pourrait divorcer, ça aurait été ce moment-là. Parce que vraiment, on se supportait pas l'un l'autre. On se parlait vraiment comme il fallait pas. C'était pas bien. Mais on en avait conscience. Et on en a reparlé après et on a reconstruit ça et c'était OK. Parce qu'on en a parlé et qu'on l'a senti tous les deux. Mais que c'était tellement intense le passage de 1 à 2. Si petit avec une Zoé qui avait 18 mois, c'était très très intense. On en a beaucoup parlé avant la naissance de Lou, des impacts que la naissance, l'arrivée d'un autre bébé allait avoir pour les filles, sur notre famille, sur notre couple. On en a beaucoup parlé avant. On a mis les choses en place qu'il fallait. On a beaucoup parlé du sommeil, comment on allait s'organiser, des routines. Et au final, ça s'est très, très bien passé. C'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde d'avoir déjà un couple uni et puis une fratrie comme ça. Ça me paraît tellement naturel d'avoir 3 enfants et que ça tourne et qu'on soit bien. Alors oui, je suis fière de nous, fière de ce qu'on a construit, de ce qu'on construit ensemble, de la façon dont on éduque nos enfants, de notre façon de vivre et de notre avenir. On en parle et c'est vraiment chouette. Mais en fait, ça me paraît facile. Alors je dis pas que tout est facile. Il y a des moments qui sont très très durs et c'est pas facile d'avoir des enfants. Mais d'avoir 3 enfants, en fait, ça me paraît tellement naturel. Et c'est bizarre pour moi qui suis fille unique. Les gens pourraient se dire mais pourquoi est-ce qu'elle a plusieurs enfants? C'est tout naturel. Et oui, on est fiers de nous, fiers de ce qu'on construit. On est heureux, on est là où on voulait être. En 2019, on a fait notre plan de vie, où on avait parlé d'avoir plusieurs enfants, effectivement. Et puis, on est dans cette période de notre vie où la carrière de Kim est calme, mais c'était le plan. Moi, je voulais construire ma boîte, ça se fait. Et puis, on a des enfants là, et on se focus sur notre famille pour l'instant. Et on est là où on voulait être. Souvent, on en parle de l'avenir avec Kim, parce qu'on parle aussi, au final, on habite aux Émirats quand même, et on sait que c'est pas l'avenir qu'on veut pour nos enfants. C'est pas la vraie vie ici. On a envie de revenir à nos racines, alors on va certainement faire un petit passage en France. Mais moi, j'ai envie de voyager avec mes enfants. Et puis, j'ai aussi envie que nos enfants, et c'est très très important pour moi et pour nous voient comme des personnes à part entière. On n'est pas juste leurs parents, en fait. On est des êtres humains et on a des passions. On s'aime, on a des amis, on adore voyager, on adore découvrir. Et moi, j'ai envie qu'ils voient des personnes passionnées par la vie. J'ai pas envie qu'ils nous voient juste comme papa et maman et qu'on fasse notre routine et que tout soit autour d'eux. Non, 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 pas du tout. Et je veux qu'elle voit qu'on est heureux, parce que c'est important, quoi. C'est vraiment important. Et à l'adolescence, alors on rigole parce que des fois on voit des jeunes ados dans la rue, et puis on se regarde avec, ils m'ont dit oh, « Mais un jour, nos filles, elles seront adolescentes, toutes les 3, t'imagines ?» Et puis en plus, elles sont proches en âge, donc il y en aura une qui aura 14 ans, et puis l'autre 16 et l'autre 17. Comment ça va se passer, cette adolescence des filles ? Je me demande comment ma relation sera avec elles, parce qu'on est des filles et qu'on a beaucoup de filles dans notre famille. Est-ce que je serai proche d'elle ou pas? J'espère. Je fais vraiment tout les 3 premières années de vie pour qu'on ait cette connexion. Et je pense que les 3 premières années de vie sont très importantes. Je passe énormément de temps avec elle parce que j'adore passer du temps avec elle et c'est trop chouette. Mais j'ai aussi envie, j'espère plus tard que dans notre vie, elles seront proches de moi et qu'on pourra faire des choses ensemble. Mais je leur souhaite énormément d'être indépendante. Je veux qu'elles voyagent. Si elles habitent à l'autre bout du monde, elles habiteront à l'autre bout du monde, on se verra. Mais je veux qu'elles vivent leur vie et qu'elles vivent leur passion. Et si elles veulent rester là où elles sont et qu'elles font ce qu'elles veulent, elles seront libres de faire ce qu'elles veulent. Et je veux vraiment qu'on ait cette connexion tous les 5 et qu'on avance ensemble, mais qu'on soit complices, qu'elles sentent toujours qu'on est leur rock, en fait. Avec Kim, quand on a écrit notre plan de vie, on s'est dit que notre famille, c'était des racines et des ailes. C'est-à-dire que c'est très important pour nous qu'elles sachent d'où elles viennent, qu'elles sachent nos racines en Normandie, en Bretagne, en France, qu'on est français et qu'on adore la France, qu'on adore nos racines, on adore nos valeurs, notre culture. Mais des ailes aussi, parce que le monde, il est tellement incroyable. Les cultures du monde entier, de voyager, de découvrir, de faire plein de choses. Ça aussi, pour Kim et moi, c'est important. Et c'est vraiment ça, notre famille, c'est des racines et des ailes. On veut pouvoir qu'elles soient indépendantes, mais qu'elles retournent toujours à leur rock, qu'on soit leur rock, si elles ont besoin de nous. On sera toujours là pour elles et on sera leur rock, quoi qu'il arrive. Mais elles seront toujours libres de faire ce qu'elles veulent. Dans notre plan de vie, avec Kim, il y a plein de choses qu'on a en commun. Et nous, on rêve d'avoir cet endroit, quelque part dans le monde, où on fait du kitesurf. On est dans la nature, on fait des randos, on mange bien, on fait du sport. Il y a du soleil, mais il y a aussi il y a la mer. Toujours la mer, elle est là. Et quand les filles seront grandes et quand elles partiront de la maison, Kim et moi, on sera ensemble et on fera un truc incroyable. On aura toujours, on reparle des racines, on aura toujours nos racines en France. On aura un endroit où on peut toujours revenir en France. Mais on aura aussi cet endroit où... En fait, en France, on va avoir la maison du bonheur. Cette maison où on sait qu'on peut revenir si on a besoin de revenir. Que ce soit pour nous ou notre famille, ou nos amis. Et les filles, quand elles seront indépendantes, Kim et moi, on sera quelque part, et puis les filles, elles seront ailleurs. Je pense pas qu'on sera pas au même endroit. Elles iront vivre leur vie, et puis on se retrouvera dans des endroits où on voyage et on découvre. Je dis ça, mais c'est notre vie. Moi, comme ça que je le vois aujourd'hui, peut-être qu'elles seront collées à nous, j'en sais rien. Mais en tout cas, Kim et moi, quand elles partiront de la maison, alors j'imagine que ça sera tellement dur de plus avoir d'enfants à la maison, mais ça sera encore une autre partie de notre vie qu'on préparera ensemble, et elles feront leurs choses pour qu'elles soient heureuses de leur côté à elles. Mais nous, on fera des choses qui nous rendent heureux. Puis elles seront toujours là, évidemment. J'aimerais vraiment qu'elles soient proches les unes des autres. En tout cas, qu'elles puissent compter l'une sur l'autre quand elles ont besoin de parler à quelqu'un. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des frères et sœurs. Ça veut pas dire que tu peux pas parler à des gens parce que j'ai mes cousines et j'ai des meilleures amies. Mais j'aimerais pour elles qu'elles puissent construire cette relation puissante qu'elles aient entre elles et qu'elles puissent se soutenir les unes les autres et que jamais, jamais elles se laissent tomber. J'aimerais qu'elles puissent le faire. Après, je peux pas le commander. Elles sont toutes différentes. Ça, c'est très drôle d'ailleurs. On se dit toujours que Zoé fera des grandes études et qu'elle sera dans un poste très important. Très littéraire peut-être ou pas. Clémentine sera wild. Clémentine, elle va voyager. Clémentine, elle va danser. Elle aura plein de copains. Lou, je sais pas encore. Lou, elle a l'air calme. Je pense que je sais ce que je vais faire ça. Tous les ans, je vais laisser un petit message vocal en leur disant « Ah, je pense que quand tu auras 20 ans, tu seras comme ça. » Parce que je trouve ça génial de voir leur caractère, à quel point elles sont différentes maintenant. Elles se complémentent très, très bien. Je trouve ça incroyable. Mais j'espère vraiment qu'elles soient unies. Ça serait, pour moi, ça serait vraiment la réussite, c'est que nos filles puissent compter l'une sur l'autre et qu'elles s'aident si elles ont besoin de s'aider. Qu'elles soient leur petit rocard entre elles. Ouais, c'est mon souhait le plus cher pour elles. Qu'elles soient heureuses et qu'elles soient... une sororité. Mais moi, j'ai tellement d'espoir et de joie en voyant ce qui arrive, de savoir qu'on va pouvoir faire tant de choses avec les enfants, tant de choses nous en couple. Ce qui me ravit aussi, c'est de savoir que dans quelques temps, Kim et moi, on va pouvoir aussi se retrouver en couple et partir que l'un et l'autre. Pour l'instant, on l'a pas fait. On n'a jamais pris une nuit tous les deux en dehors. La première nuit sans les filles, c'était à l'accouchement de Lou. C'était notre première nuit tous les deux sans les enfants. Et là, moi, je commence à ressentir le besoin de le faire. Donc ça y est, je pense que l'année prochaine, on va partir quelques jours ensemble que tous les deux. Et ça, je me dis que ça va arriver de plus en plus et que Kim et moi, on aura notre vie à 2 et on aura notre vie à 5. Et ça, c'est trop chouette. Mais en tout cas, on est très heureux et on est là où on veut être. Mmh.